place publique.
Une photo qui a fait le tour du monde. Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont serrés la main hier à Singapour. Nous évoquerons cette rencontre historique avec notre correspondant aux États-Unis, Claude Porcella. Des dizaines de millions de francs perçus indûment, l'ensemble d'une direction licenciée et la directrice générale de la Poste qui démissionne. Le scandale CarPostal s'est transformé en séisme. Notre correspondant au Palais fédéral, Serge Hubin, le conseiller national Manfred Buller et Jean-François Donzé du syndicat Syndicom seront nos invités après le flash de 18h30. Le monde va tourner autour du ballon rond durant un mois. La Coupe du monde de football démarre demain en Russie. Nous parlerons de cet événement avec un spécialiste, le directeur de l'Observatoire du football CIES à Neuchâtel, Raphaël Poli.
Jusqu'à 19h, place publique. François Comte.
Bonsoir. Un réel espoir de paix dans la péninsule coréenne ou un miroir aux alouettes. La rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un hier à Singapour a fait le tour de la planète. Les deux hommes ont échangé plusieurs poignées de main et ont signé un document commun. Des gestes qui étaient encore impensables il y a quelques mois lorsque les deux dirigeants s'invectivaient mutuellement à coups de noms d'oiseaux. Et pour parler de cette entrevue historique et de ses implications, nous recevons en direct par téléphone notre correspondant aux États-Unis, Claude Porcella. Bonsoir Claude.
Bonsoir François.
Alors tout d'abord, comment cette rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un a été perçue aux États-Unis, à la fois je dirais par les médias et par la population?
Bien, écoutez, les réactions sont mitigées. Tout le monde dit bon, que le fait qu'ils se soient rencontrés, ça n'est pas une mauvaise chose. Une poignée de main est meilleure que des coups de poing et en l'occurrence des tirs de missiles balistiques. Mais d'une façon générale, évidemment, on déplore que la substance soit un peu légère. Un expert a parlé d'un succès diplomatique de cette rencontre, mais pas d'un succès stratégique. Ce matin, Donald Trump, dans un tweet, a dit que la Corée du Nord ne représentait plus un danger nucléaire. Et il a ajouté « Vous pouvez dormir désormais tranquille, les Américains n'en sont pas tout aussi convaincus ».
Alors il y a pas mal de doutes, on y reviendra tout à l'heure à propos de ce document commun, mais est-ce qu'on reproche aussi à Donald Trump finalement d'avoir manqué de fermeté, d'avoir trop cédé à Kim Jong-un?
Ah oui, tout à fait. Premier cadeau qu'il a fait à Kim, c'est de le recevoir. Il a élevé un petit dictateur d'opérette, mais aussi, plus grave, un tyran sanguinaire, au rang de chef d'État respectable. C'est ce que souhaitaient ses deux prédécesseurs. C'est le rêve de Kim Jong-il et de son père, Kim Il-sung, de pouvoir être reconnu par les États-Unis. Donc là, il lui a donné un très beau cadeau, sans pratiquement lui demander quelque chose en échange. Et puis, deuxième cadeau, surtout, c'est la fin des manœuvres américano-sud-coréennes qui devaient avoir lieu en août prochain. Et là, évidemment, ça inquiète sérieusement et Séoul et le Japon. Et en revanche, en échange, plus exactement, qu'a donné Kim, il a offert vaguement de détruire un site d'essai de missiles balistiques et puis aussi d'aider à trouver et à rapatrier les dépouilles des 17 000 soldats américains tués pendant la guerre de Corée dans les années 50.
Alors justement, le document commun, il reste assez vague, notamment concernant la dénucléarisation de la Corée du Nord. Pas de calendrier, pas de surveillance prévue. On sait que des négociations sont d'ores et déjà annoncées pour la semaine prochaine. Finalement, quelles sont les attentes aux États-Unis?
Le temps le dira. Pompeo, le secrétaire d'État, va donc entamer des négociations la semaine prochaine. Aujourd'hui, il est à Séoul pour faire le point, dire un petit peu aux Sud-Coréens ce qui s'est passé. Et les Sud-Coréens qui sont tout de même un peu inquiets. N'oublions pas que c'est grâce, finalement, si tout cela a pu se passer, c'est grâce aux efforts du président sud-coréen. Il n'a pas été invité à ce sommet et il a été le premier surpris d'ailleurs, tout autant que le Pentagone d'ailleurs, par cette décision de Trump de suspendre les manœuvres. Pompeo, de quoi va-t-il discuter la semaine prochaine avec les Nord-Coréens? il n'y a pas de programme, il y a, on ne sait pas. Hein, tout va dépendre du temps. Hein, c'est vraiment tout ce que l'on peut dire à ce stade.
Mais est-ce que cette rencontre ne constitue pas tout de même une victoire pour Donald Trump et pour sa méthode, on va dire, particulière d'aborder les relations diplomatiques ?
Ah ben oui, effectivement, c'est un fervent adepte de la manière forte, hein, en diplomatie. Hein. Non, c'est vrai, hein, après tout, il est tout de même le premier à pouvoir avoir réussi cette rencontre. Hein. Ni Clinton, ni Bush, qui avaient essayé eux aussi, hein, d'avoir de bonnes relations avec la Corée, mais les succès n'avaient pas été très, très probants, puisque dans les deux cas, la Corée du Nord n'avait pas respecté ses engagements de dénucléariser. Donc oui, c'est la méthode diplomatique de Trump, mais on a vu ce que ça a donné au G7. Au lieu d'aller à Singapour avec le plein soutien de ses alliés, il les a mis fort en colère avec de bonnes raisons, et il est maintenant de plus en plus isolé, que ce soit sur les questions commerciales et après sa dénonciation du traité iranien, du traité nucléaire iranien. Donc il est dans une position d'isolement qui était assez inquiétante.
Alors un mot précisément sur cette manière d'envisager les relations internationales, cette méthode Trump, hein, qui casse les codes, qui mêle à la fois rapport de force, dimension personnelle, à la manière finalement du promoteur immobilier new-yorkais qu'il est resté peut-être.
Oui, ben oui, évidemment, et ça donne parfois des résultats, hein. Il mélange, si vous voulez, la menace et il cajole, c'est ce qui s'est passé avec Kim d'ailleurs, hein. Il a beaucoup cajolé, il a flatté, après l'avoir traité de Rocket Man, de petit homme fusée et d'autres noms d'oiseaux, comme vous le disiez au début de cet entretien, tout d'un coup, le voilà qu'il qualifie le dictateur d'homme talentueux, qui aime son peuple, ce qui est assez ironique quand on sait le traitement qu'il inflige à ses compatriotes.
Alors cette rencontre a également été très scénarisée, un peu comme un film de cinéma, c'est aussi ça la méthode Trump ?
Oui, tout à fait, c'est un grand amateur de télé-réalité et il faut dire que, bon, c'était un très beau spectacle. Je suis sûr qu'il y avait des millions et des millions d'Américains qui étaient devant leur téléviseur pour regarder cette poignée de main qui effectivement est historique et qui rappelait un petit peu le voyage de Nixon en Chine et ses entretiens avec Mao Tse-tung.
Un tout dernier mot, Claude, est-ce que Donald Trump compte exploiter cette rencontre avec Kim Jong-un dans la perspective des élections de mi-mandat en novembre prochain aux États-Unis? Ce sont des élections très importantes.
Oui, très certainement, mais il faut attendre maintenant les premiers sondages sur les effets de ce sommet de Singapour. Et vous savez, pour les Américains, ce sont tout de même les questions économiques, hein, qui comptent les premières. Et ces élections sont encore assez éloignées. C'est en novembre, il y a encore presque 5 mois. Et d'ici là, les choses peuvent bien changer. Et puis d'ici là aussi, on verra un peu comment les Nord-Coréens vont réagir à cette rencontre et si effectivement les premières négociations vont porter leurs fruits.
Claude Porcella, notre correspondant aux États-Unis, merci d'avoir été en direct dans Place Publique. Bonne suite de journée pour vous, hein, puisqu'il est 12h30 à Washington.
Merci François, bonne soirée à vos auditeurs.
Place Publique.
L'affaire carte postale a pris une nouvelle dimension cette semaine. La directrice générale de la Poste, Suzanne Ruoff, a été poussée à la démission suite au scandale de l'argent indûment perçu par la filiale du géant jaune. L'ensemble de la direction de carte postale sera d'ailleurs remplacé. La Poste a annoncé lundi diverses autres mesures et s'est engagée à rembourser tous les montants d'ici à l'automne, soit entre 90 et 120 millions de francs. Et de son côté, le Conseil fédéral a notamment annoncé la mise en place d'un audit sur le pilotage des anciennes régies fédérales. Le scandale carte postale s'est donc transformé en véritable séisme. Nous accueillons en direct notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin, le conseiller national UDC du Jura bernois Manfred Buller, qui est également membre de la commission des télécommunications, et Jean-François Donzé, secrétaire régional pour l'Arc jurassien du syndicat Syndicom. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Serge Hubin, tout d'abord, que retenir deux jours après l'annonce des décisions prises par la Poste et par le Conseil fédéral? Est-ce que finalement le soufflet est retombé à Berne ou est-ce que l'affaire continue à agiter le palais fédéral?
C'est un soufflet qui n'a cessé de gonfler depuis les révélations du mois de février. Le rapport des experts présenté hier décrit les malversations. Ce n'est plus un choc, mais c'est une confirmation. Avec une phrase forte qu'il faut retenir du président de la Poste, Urs Wallaert. Depuis plus de 10 ans, régnait à la Poste une culture de la tricherie et aucune des nombreuses instances de surveillance ne l'a révélé clairement, bien plus que les têtes qui ont roulé. Le scandale se situe dans ses pratiques frauduleuses au sein d'une entreprise qui appartient à 100% à la Confédération, un fleuron de la Suisse que la Poste. Donc des pratiques qui sont faites au détriment des cantons et de la Confédération. Les parlementaires avec qui nous avons pu en discuter sont tout simplement abasourdis.
Alors l'affaire n'est donc pas close, on l'a bien compris. Serge Hubin, est-ce que le conseil d'administration de la Poste, qui n'a pas été sanctionné dans cette affaire, finalement ce conseil d'administration, est-ce qu'il s'en sort à bon compte selon vous?
Il faut comprendre qu'il y a des responsabilités à plusieurs niveaux. Il y a les responsabilités de carte postale, là ce sont les vrais tricheurs, toute la direction a été mise à pied. Il y a aussi de la responsabilité morale surtout de la directrice Suzanne Ruoff, elle a fait office de fusible. Et donc le conseil d'administration, on dirait qu'il a davantage péché par manque d'esprit critique ou par méconnaissance. Et si on prend Urs Wallaert, eh bien il est là depuis 2 ans exactement, il n'a visiblement rien su des pratiques et quand il a été informé, il a pris des mesures. On pourrait imaginer faire table rase complète, c'est prendre le risque de déstabiliser encore davantage une entreprise, une institution d'État. Peut-être que le conseil d'administration et Urs Wallaert s'en tirent à bon compte, mais il paraît toutefois être l'homme de la situation.
Manfred Buller, avant de parler de la motion que votre groupe parlementaire a déposée hier, est-ce que vous estimez que le conseil d'administration aurait dû démissionner ou est-ce que vous partagez finalement un peu l'analyse de Serge Hubin?
Alors je crois que ce serait une erreur aujourd'hui de déstabiliser davantage encore la Poste. Je crois qu'il faut effectivement être prudent. Ça a été dit, Urs Wallaert est là depuis 2 ans, donc il ne peut pas savoir ce qu'il s'est passé auparavant. Je lui accorde le bénéfice du doute. Maintenant, il y a encore eu des malversations en 2016 et 2017. Et si d'aventure il devait s'avérer plus tard que Urs Wallaert ou d'autres membres du conseil d'administration ont été mis au courant ou n'ont pas réagi, ça se verra peut-être plus tard. Eh bien, il faudrait aussi penser à d'autres mesures. Mais pour l'instant, je crois qu'il est en mesure de piloter cette procédure qui est en cours et de prendre les mesures courageuses, je crois qu'il faut quand même le dire, qui ont été annoncées.
Donc, conseil d'administration et son président Urs Wallaert en sursis, à vous entendre. Même question à vous, Jean-François Donzé, pour le syndicat Syndicom. Est-ce que le conseil d'administration aurait dû lui aussi démissionner?
Pour la part de Syndicom, on pense que ce n'est pas forcément la solution actuelle. Ça a été dit tout à l'heure par M. Buller, comme quoi l'enquête aussi continue de 2016 et 2017. Après, laissons faire l'enquête.
Alors, comme Manfred Buller, finalement, vous accordez le bénéfice du doute pour le moment au conseil d'administration de la Poste. Manfred Buller, votre parti a déposé une motion qui demande que les membres de la direction de carte postale incriminés dans cette affaire, ainsi que la directrice générale de la Poste, remboursent leurs bonus et leurs salaires qui dépassent les 200 000 francs par an pour les années en cause. Est-ce que l'UDC n'essaie pas de récupérer finalement ce scandale?
Oh non, bon, je crois que c'est légitime dans un Parlement de déposer des propositions lorsqu'une affaire d'une telle ampleur secoue le landerneau politique. Après, est-ce que la proposition est réalisable sous cette forme-là ou sous une forme différente, par exemple sous forme de plainte civile de la Poste contre ses anciens employés maintenant qui devraient être amenés à assumer une responsabilité au plan civil et rembourser des dommages, ça c'est à voir. Mais au plan politique, je pense qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés sans réagir.
Donc vous partagez l'avis finalement de votre groupe parlementaire, y compris en tant que membre de la commission des télécommunications?
Alors, je suis solidaire de cette intervention, en tout cas pour le moment. Nous verrons comment le dossier évolue. Nous voterons sur cette intervention plus tard, lorsque le Conseil fédéral aura pris position. Nous verrons si nous en discutons à la Commission aussi. Je ne peux pas encore préjuger du résultat de ces discussions.
Jean-François Donzé, est-ce que vous partagez finalement cette idée, lancée par l'UDC, demander un remboursement des salaires et des bonus?
Bon, je dirais que Syndicom a la vision de se dire que ces bonus, de toute façon, le conseil d'administration retient ce versement. Par contre, je pense qu'il faut aussi analyser un peu plus loin la possibilité qu'il ne touche pas ces bonus. Ce serait aussi scandaleux vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis des politiques qui font leur travail aussi à ce sujet, mais vis-à-vis du personnel. Le personnel, on le met sous pression, le personnel, on leur met des objectifs, on leur parle d'externalisation, et c'est peut-être là aussi le bas qui blesse. Ils ne touchent pas grand-chose, et là je pense que ces bonus, avec les salaires qu'ils ont, sont à étudier, surtout personnellement, moi je ne les verserai pas.
Voilà. Donc vous seriez plutôt favorable à cette idée de l'UDC, il pourrait y avoir une alliance finalement entre l'UDC et les syndicats?
Je ne sais pas si c'est favorable à l'UDC, ceux qui ont déposé cette proposition de ne pas verser le bonus, mais je pense que réflexion sur ce sujet, c'est un peu la cerise sur le gâteau que de verser des bonus avec le scandale qui s'est passé.
Manfred Buller, votre parti appelle également dans cette motion le Conseil fédéral à, je cite, dissoudre les copinages PDC à Carte Postale et à La Poste. Or, ni Suzanne Rouhoff, ni ses prédécesseurs n'appartiennent au PDC depuis 2002. C'est un membre du PDC qui a occupé la présidence du conseil d'administration durant seulement 3 ans, sur une période de 16 ans. À travers cette attaque, c'est Doris Leuthard que vous visez indirectement?
Alors évidemment qu'on peut le voir comme une banderie lancée en direction de Doris Leuthard. On sait qu'elle est sur le départ. On sait aussi que ça pose quelques questions tout de même. Le fait que Urs Schwaller, ancien conseiller aux États, brillant par ailleurs, mais membre du PDC, conseiller fédéral PDC qui s'occupe de La Poste, ça pose quelques points d'interrogation.
Mais l'affaire a démarré bien avant.
Bien sûr, mais aujourd'hui il y a une responsabilité en termes de conseil d'administration auprès de Urs Schwaller, une responsabilité de propriétaire représentée par Madame Leuthard auprès du PDC également, donc ça mérite d'être discuté. S'il s'avère qu'il n'y a pas de problème de copinage qui aurait pu influencer tout ce dossier ces 2 dernières années, eh bien on en prendra acte.
Jean-François Donzé, on revient à l'affaire, je dirais, en elle-même. Hein. Quels enseignements la direction de La Poste doit tirer de cette affaire Carte Postale, selon vous?
La Poste doit comprendre que le but premier du groupe postal ne constitue pas de tout le temps maximiser les profits, mais de garantir un service public de qualité, un service public fort, étendu dans toutes les régions de la Suisse, et je le répète, de qualité. Remettre au centre le service public, ça c'est vraiment le souhait aussi de Syndicom, parce qu'on voit toutes ces externalisations qui s'est passées ces 10 dernières années, elles n'ont rien amené que justement maximiser du profit, de mettre le personnel restant sous pression, et puis on voit ce résultat aussi avec Carte Postale, après avec, on peut dire, des magouilles.
Mais est-ce que c'est possible, selon vous, avec un conseil d'administration qui, en tout cas jusqu'à présent, ne devrait pas changer?
Mais moi, je pense que c'est aussi politique. Les politiques s'en mêlent, et c'est aussi leur responsabilité. L'appât du gain, je le répète, a été l'origine de ces débats de Carte Postale, mais les politiques doivent mettre de l'ordre aussi dans le conseil d'administration. Cela, les prochains mois, ça, on verra la suite de ce qui se passe aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2016 et 2017. Après, le conseil d'administration doit entendre aussi les partenaires sociaux ainsi que le personnel restant, halte à ces externalisations et puis arrêter de maximiser tout ça.
Bon, Manfred Buller, vous l'avez entendu, hein, Syndicom lance finalement un appel à la classe politique pour qu'il envoie des signaux clairs à La Poste, pour qu'elle se recentre sur le service public plutôt que sur la recherche du profit maximal. Vous êtes prêt à aller dans ce sens ?
Je ne crois pas que la Poste fasse simplement une recherche de profit maximal dans ses activités. Bien sûr qu'on attend d'elle qu'elle soit au moins rentable et qu'elle ne perde pas d'argent, c'est la moindre des choses. Je crois que le temps béni des PTT où les bénéfices du téléphone couvraient les déficits de la Poste, c'est effectivement loin derrière nous et ça doit le rester. Là où effectivement il y a de la marge de manœuvre, c'est un peu dans les objectifs stratégique que le Conseil fédéral assigne à la Poste. Parce que le Conseil fédéral attend un certain nombre de bénéfices qui sont affectés à la Caisse générale de la Confédération, de l'ordre de 200 millions par année. Peut-être qu'on pourrait dire que la Confédération revoit un tout petit peu ses exigences à la baisse pour permettre à la Poste d'avoir un tout petit peu plus de marge de manœuvre pour réaffecter certains de ses bénéfices dans un service public, notamment dans les régions périphériques, par exemple, pour éviter certaines fermetures de bureaux de poste. Ça, je suis ouvert à cette discussion, mais c'est avant tout un thème que le Conseil fédéral doit aborder.
Votre réaction
Je crois qu'on va attendre M. Buller de aussi regarder pour consolider le réseau des offices de poste. Je pense qu'on peut aussi voir, des subventionnements croisés. Et je le répète, c'est cette situation avec Carte Postale, c'est l'appât du gain qui a poussé justement cette maximisation du profit sur le dos, en finalité, des travailleurs, mais aussi des usagers.
Dernière question pour vous, Serge Hubin, on a commencé avec vous, donc notre correspondant au Palais fédéral. Alors le Conseil fédéral a annoncé qu'il allait soumettre les anciennes régies fédérales à un audit sur leur pilotage, en tout cas sur les grandes lignes de leur pilotage. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette démarche selon vous ?
Tout d'abord, j'aimerais évoquer un audit très particulier dont on parle très très peu. C'est celui que Mme Leuthard entend faire sur son office des transports. On rappellera ici qu'il a fallu que le canton du Jura exige tout d'abord que l'office des transports mette son nez dans les comptes de Carte Postale. Et puis les cantons romands se sont associés à cette démarche. Il a fallu qu'il soit insistant pour que l'OFT mette enfin son nez, non plus seulement dans les bilans, mais aussi dans la comptabilité de Carte Postale. Donc c'est l'instance de contrôle et cette instance n'a rien vu. Donc un audit de méthode de travail de l'Office fédéral des transports est indispensable et je pense que c'est la première chose. Maintenant, sur la question des audits des anciennes régies fédérales, je pense que c'est toujours nécessaire. Il y a un doute, donc il faut lever le doute, il faut voir comment les choses fonctionnent. Je pense qu'il s'agit aussi d'avoir une réflexion politique. Ces anciennes régies fédérales, privatisées, mais qui restent propriété de la Confédération, elles ont un pied dans l'économie libérale, dans la concurrence, c'est une très bonne chose, et elles ont, d'un autre côté, un devoir de service public, ce qui est une autre bonne chose, mais on comprend bien les difficultés ou le hiatus qu'il y a parfois entre les deux objectifs. Où est le juste milieu ? Je pense que c'est une question importante que doit se poser le propriétaire de ces sociétés, la Confédération, donc le Conseil fédéral, mais également le Parlement, et apporter des réponses qui sont sensées et cohérentes. La cohérence n'est pas toujours la principale qualité lorsqu'on parle de la Poste en particulier. On l'a entendu dans le débat tout à l'heure. On parle de maximiser d'un côté, d'un autre côté, on veut du service public. Ça n'est pas toujours très cohérent. Il y a certainement des tâches à revoir.
Serge Hubin, Manfred Buller, Jean-François Donzé, merci d'avoir participé à Place Publique. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Place Publique.
La planète va prendre la forme d'un ballon de football à partir de demain avec le début de la Coupe du Monde en Russie. Et les pronostics battent leur plein, même l'UBS s'y met. Grâce aux algorithmes, la banque suisse prédit une victoire du Brésil devant l'Espagne. La Suisse, quant à elle, aurait moins de 2% de chances de s'imposer. Un autre classement publié par l'Observatoire du football CIES, basé à Neuchâtel, a été réalisé fin avril et estime, grâce à un indice de pouvoir, que l'Espagne a le plus de chances de l'emporter devant le Brésil et la France. La Suisse pointe-t-elle à la 10e place. Le CIS a également publié cette semaine une étude qui se base sur la valeur de transfert des joueurs. La France est en tête devant l'Angleterre, le Brésil et l'Espagne. La Suisse se situe au 16e rang. Alors dans quelle mesure ce genre de procédé permet de prédire l'issue de la compétition ? Paul Le Poulpe ou encore Achille Le Chat ont-ils trouvé leur maître ? Élément de réponse avec Raffaele Poli, directeur de l'Observatoire du football CIES. Raffaele Poli, bonsoir.
Bonsoir.
Alors la France domine votre classement des équipes les plus chères engagées dans la Coupe du Monde, devant l'Angleterre, le Brésil et l'Espagne. Est-ce que ça signifie que ces quatre équipes ont finalement les meilleures chances de l'emporter ?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a une corrélation entre la valeur des joueurs sur le marché des transferts et les résultats, parce que ça reflète un peu le niveau des clubs où ces joueurs sont engagés. Après, je pense quand même que le Brésil et l'Espagne, c'est les vrais favoris si on regarde le parc de joueurs à disposition, même si on a vu encore aujourd'hui le licenciement du coach de l'Espagne qui pourrait aussi changer la donne.
Alors ça, c'est un élément évidemment que vous n'aviez pas prévu. Hein, c'est là où on revient à la glorieuse incertitudes du sport, entre guillemets.
Bien sûr, ça c'est imprévisible. Et pour répondre aussi à votre questionnement, c'est clair que ça vaut ce que ça vaut, ces prédictions, même s'ils sont faits sur un certain nombre de critères objectifs. Après, le rôle du hasard dans le foot est énorme. Même si à la Coupe du Monde, on remarque souvent que quand même les grandes nations, au final, sont celles qui gagnent, malgré tout.
Alors, en apparence, dans votre classement, dans vos classements, vous en avez fait donc deux, hein, pas de vraie surprise, même si Angleterre, l'équipe nationale, n'est peut-être pas au mieux. Hein. Mais enfin, pour réaliser ce classement, vous appliquez des critères très précis, plus complexes qu'on ne pourrait l'imaginer. La portée de cette recherche dépasse largement celle de la Coupe du Monde.
Oui, vous citez deux classements qui ont un peu des objectifs différents. L'un, c'était vraiment de regarder, du point de vue des joueurs à disposition, lesquels jouent dans les meilleurs clubs et ont le meilleur temps de jeu, donc des critères strictement sportifs. Et puis, c'est par rapport à ça qu'on avait classé l'Espagne devant le Brésil en tant que favori du mondial. L'autre critère, l'autre classement, ça fait plus référence à la valeur de transfert des joueurs, donc des critères plus économiques. Combien les clubs devraient-ils payer pour s'assurer les services de ces joueurs? C'est en partie corrélé à la valeur sportive, mais pas seulement. Par exemple, la France est en tête parce qu'elle a un groupe assez jeune, et quand on a des jeunes joueurs, on peut mieux les valoriser sur le marché des transferts, mais la jeunesse sportivement peut aussi être un petit handicap.
Alors les classements, les pronostics, même les banques hein, s'y mettent, à l'image de l'UBS, je le disais tout à l'heure, avec ses algorithmes de prédiction économique. On retrouve à peu près le même quatuor ou presque hein, en tête par rapport à vos études à vous. Est-ce que vous cautionnez ces pronostics, en l'occurrence ici faits par UBS, hein, qui donne seulement à la Suisse, je le rappelle, 2% de chances de s'imposer?
Bon, je connais pas précisément ce classement, ce pronostic, mais c'est clair que c'est pas la première fois que UBS fait ça. C'est une bonne manière de se faire de la publicité. Après, ça vaut ce que ça vaut. C'est clair que la Suisse n'a pas beaucoup de chance. Ça, tout le monde le sait. Est-ce que c'est du 2%, 3% ou 4%? Au final, ça revient au même. On sait que, par contre, si la Suisse gagne, ce serait une grosse surprise. Ça, c'est sûr.
Mais la conclusion de tout ça, c'est finalement qu'en matière de football, au final, ou plutôt en finale en l'occurrence, c'est toujours l'argent qui gagne.
Non, je pense pas, surtout au niveau des clubs sans doute plus, mais bon, c'est pas non plus total, sinon Manchester City ou Paris Saint-Germain qui ont le plus dépensé ces dernières années auraient déjà gagné la Ligue des Champions, donc c'est pas que ça, même au niveau des clubs, mais c'est très important. Et au niveau des équipes nationales, encore moins, parce qu'à ce moment-là, on paye pas vraiment des transferts pour recruter les meilleurs joueurs, c'est sur la base de la nationalité, c'est plutôt les cultures footballistiques et la capacité de travailler bien au sein des jeunes pour former le plus de talents possible, leur permettre d'avoir au final une équipe nationale performante.
Est-ce qu'avec ces classements, ces différentes études, vous arrivez à voir quelles seront les révélations de cette prochaine Coupe du Monde ou encore les grosses désillusions? Ou est-ce que, pour analyser ces deux choses, donc les surprises bonnes ou mauvaises, là, il faut plutôt y aller au pifomètre?
Bon, il y a quelques critères quand même, notamment par rapport à la trajectoire de carrière des joueurs. Il y a des équipes comme par exemple le Danemark ou la Pologne qui sont avec des joueurs qui sont peut-être pas encore très très connus, mais qui montent en puissance, dont certains très très grands joueurs qui manquent malheureusement à la Suisse, comme Eriksen ou Lewandowski. Donc ça, c'est deux pays par exemple qui pourraient créer la surprise. L'Angleterre, tout le monde, chaque fois on les attend un peu au tournant, et puis finalement c'est souvent des grosses déceptions. génération, mais là, ils ont une génération très, très prometteuse et aussi des jeunes qui, aujourd'hui, sont vraiment très bons. Ils ont gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans, les championnats d'Europe aussi des moins de 21 ans, des moins de 19 ans. Donc, on voit bien qu'en Angleterre aussi, il se passe quelque chose. Peut-être c'est un peu tôt encore cette Coupe du Monde, mais on voit quand même certaines nations, comme celle que je citais, qui sont plutôt dans une bonne phase, qui vont plutôt vers le haut, alors que d'autres, on pourrait citer l'Argentine, qui est assez vieillissante, même s'ils ont Messi, le Portugal aussi, des joueurs très bons, qui ont gagné l'Euro, mais qui sont peut-être déjà un peu en phase descendante, pourraient peut-être des désillusions, mais au final, ce n'est que la vérité du terrain qui dira justement la vérité.
Et la Suisse, dans tout ça, elle ne peut pas créer la surprise ?
La Suisse, je pense que maintenant, elle s'est implantée de manière assez stable parmi le quota des nations du football. Ils n'ont jamais eu un vrai exploit. Les joueurs sont encore relativement jeunes, mais pas si jeunes. Donc, je pense qu'ils ont un coup à jouer. Maintenant, c'est la forme du moment. Et puis, quand on les voit, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu poussif comme équipe. Et il manque peut-être un grand talent qui fait la décision. Mais défensivement et au niveau tactique et avec l'expérience des joueurs, sans doute que ils donneront du fil à retordre à tout le monde, je pense. Et puis, avec un peu de chance, pourquoi pas. Mais je ne les vois quand même pas pouvoir gagner le trophée. Ça, ce serait peut-être un peu trop.
Alors, toutes ces études, tous ces classements, est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure manière de briser un petit peu la magie du football ?
Non, parce que le football, c'est vraiment un jeu où le hasard joue un rôle fondamental, aussi la prise de risque, des décisions arbitrales, même là.
Là, il y aura la vidéo.
Il y aura la vidéo. C'est sûr que ça fera aussi partie un peu du jeu, de plus en plus. Mais ça aussi, la vidéo ne va pas résoudre tous les problèmes. Il y aura toujours des faits de jeu qui vont faire qu'un match peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'on fait tous ces pronostics, parce qu'on sait très bien qu'au final, ça ne vaut pas grand-chose.
Alors, il y a d'autres classements plus saugrenus, moins scientifiques, qui font parler d'eux. On a parlé tout à l'heure de Achille Le Chat, qui est le nouveau pronostiqueur, après le fameux Paul Le Poulpe, ou encore une autre on ne va pas dire études, mais en tout cas un autre classement qui est basé sur les attitudes des joueurs en photo sur les vignettes Panini. Ça vous fait sourire?
Oui, mais c'est assez drôle, mais ça sert aussi à ça. La Coupe du Monde, c'est un événement planétaire qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait vraiment parler. Et puis au final, après, c'est à chacun de faire le tri. Donc, je vois rien de mal à faire ça. Après, si les gens s'y intéressent, tant mieux. Sinon, voilà, quoi. Il y a d'autres choses aussi que le foot et la Coupe du Monde.
Alors, à qui profitent finalement ces classements? On sait que les paris génèrent un pactole très important. Ça alimente justement la machine à parier de l'argent pour les matchs de la Coupe du Monde.
Ah ben oui, disons les bookmakers, donc les opérateurs de paris, se font beaucoup d'argent avec ces grandes manifestations parce qu'ils ont des marges. Donc de toute façon, avec la gestion des risques qu'ils ont, ils sont pas perdants, ou ils peuvent plus ou moins gagner, mais ils sont pas perdants. Donc c'est clair qu'ils gagnent à ce que les gens parient beaucoup et puis que ça parle et puis que voilà, ça sert en fait pour les gens de s'amuser et puis dépenser de l'argent. Et puis ça fait gagner évidemment gros à ces opérateurs-là.
Alors, une toute dernière question à titre personnel, cette fois-ci, c'est vraiment aux passionnés de football que je m'adresse. Comment vous vous sentez à un peu moins de 24 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde? C'est un moment que vous attendez en particulier?
Ben, c'est clair que c'est tous les 4 ans, donc ça arrive pas tous les jours. Au contraire, je pense que c'est une grande richesse de cette manifestation, un peu comme les Jeux Olympiques d'été. Et on peut attendre. Mon espoir, c'est qu'il y ait du beau jeu, parce que c'est vrai que des fois, on a été déçus, parce que c'est aussi la fin de saison, il y a la fatigue, il y a trop de matchs, je pense, en calendrier un peu surchargé, donc les joueurs sont vraiment mis à rude épreuve. Mais voilà, j'espère qu'il y aura du beau monde au stade, des bonnes ambiance et du beau jeu. Ouais.
Mais c'est en tout cas tout ce qu'on souhaite également, nous. Merci Raphaël et Pauli d'avoir été en direct dans Place Publique. Bonne soirée.
Merci.